Merci pour l'organisation de ce séminaire ce matin. Et merci pour ces belles présentations. J'espère que ce sera à la hauteur de ce qu'on a entendu jusque-là. Donc j'ai choisi de vous présenter effectivement un article qui est paru dans un ouvrage collectif dirigé par Monia Lajhab de l'IRMC de Tunis, publié aux éditions Kartala en 2016, qui s'appelle donc Théologienne, Théologien, Féministe et Gay Friendly de l'Islam. J'aurais pu mettre un point d'interrogation d'ailleurs, parce que c'est vraiment balbutiant. Donc c'est une perspective sociologique et non exclusivement théologique, même si chacun, chacune, en tant que citoyen, peut se sentir plus ou moins engagé sur ces terrains politiques. Cela n'est pas l'objet de cette présentation. J'aimerais donc aborder le sujet qui a été introduit avec notre collègue en début de séminaire, de l'articulation entre identité de genre, sexualité, religiosité et l'émergence de ces mouvements sociaux, politiques, que ce soit ici dans des communautés de la diaspora ou en Tunisie après la révolution de Jasma notamment, ou dans d'autres régions du monde dit arabo-musulman. Avec une courte introduction historiographique pour qu'on puisse tous et toutes être sur la même longueur d'onde pour voir un peu d'où ça vient et quelle est l'évolution récente de ce qu'on peut appeler, qualifier de mouvement à l'heure actuelle, je vous dirai pourquoi. Et si j'ai le temps, j'essaierai aussi, parce que c'est un peu une friandise, hein, on trouve ça touchant, donc de parler un peu des textes religieux, de la façon dont ces théologies de la libération islamique, théologies queer, de plus en plus décrites comme des théologies queer, effectivement, se réapproprient ces textes pour lire entre les lignes autre chose que ce qu'on voudrait y voir depuis surtout la colonisation occidentale dans le monde arabo-musulman. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais c'est peut-être aussi une corrélation qui n'est pas du tout une coïncidence, mais qui explique aussi cette résurgence des identités virilistes et patriarcales justifiées et sanctifiées par le biais de certains textes religieux. Alors donc depuis une vingtaine d'années, il y a des bouleversements remarquables qui ont lieu dans le champ de la théologie et des interprétations de l'islam. Ces nouveaux courants réformateurs contemporains, dits progressistes, inclusifs, au sens où, voilà, avec le nouveau président de la République, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le progressisme, on en a entendu parler depuis des semaines, des mois, et inclusifs au sens où ce sont des théologies ou des initiatives politiques engagées qui utilisent l'interprétation du théologique pour inclure dans une perspective universaliste, humaniste, tous les individus qui font partie des communautés religieuses considérées. Donc contrairement au salafisme qui se dit, voilà, le salaf, c'est ce qui est venu avant. Donc salafia, ce sont des gens qui se décrivent comme étant rattachés à une théologie qui est radical, à la source, pur, quelque chose de puriste là-dedans. Et contrairement aussi au takfirisme, donc kafir, en arabe, c'est celui qui va cacher la vérité, mais c'est aussi, bon, c'est devenu, au fil du temps, surtout à l'heure actuelle, depuis une centaine d'années, tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et si on va encore plus loin, tous ceux qui ne sont pas musulmans, comme la personne va avoir cette réflexion, se considère que l'islam est ou doit être représenté et pratiqué. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de djihadisme, mais ça c'est plus récent, c'est plus contemporain, mais en tout cas la question du takfirisme, c'est quelque chose qui a posé question, voire qui a posé problème dès les premiers siècles de l'islam, avec le sunnisme, le chiisme ensuite, mais une des sectes de l'islam était basée là-dessus, sur le fait qu'on devait déterminer qui était un bon musulman ou pas, et ceux qui n'étaient pas des bons musulmans étaient massacrés, donc une forme de terrorisme, de djihadisme d'il y a plus de 2000 ans. Bon, c'est pas un hasard, cette secte des takfirismes a été exterminée dès le début de l'islam. On voit qu'il y a des résurgences, voilà, plus ou moins fascistes, plus ou moins totalitaires. C'est le cas aujourd'hui. Mais ces représentations qu'on qualifie aujourd'hui de féministes ou de gay-friendly, alors ça c'est encore en pleine émergence, mais en tout cas les représentations féministes de l'islam sont apparues en Iran comme un mouvement intellectuel d'exégèse religieuse défendant l'égalité des sexes, un peu comme on en a entendu parler à l'instant, dans cette perspective talmudique, midrashique, de lire entre les lignes, voilà, la femme c'est la côte de l'homme, donc il y a une forme de complémentarité, de relation subalterne, mais faut pas trop leur taper dessus, en gros c'est ça. Donc depuis les années 70-80, ce qui, quand on voit, et là aussi, hein, c'est assez récent, ce qui se passe en Arabie Saoudite avec l'interdiction de conduire qui a été levée récemment, l'interdiction de voyager seul qui a été levée récemment et qui a été instaurée dans les années 60-70 parce que ça n'existait pas, ces lois n'existaient pas avant cela en Arabie Saoudite ou en Iran. La question de l'autorisation de la transition sexuelle, donc la transsexualité en Iran aussi, ça c'est quelque chose qui a été établi dans les années 70, à la même période, donc on peut se dire, bah, c'est bizarre, alors pourquoi ils interdisent aux femmes de conduire, de voyager tout seul, et puis ils autorisent les transsexuels à se faire opérer, c'est même remboursé par la sécurité sociale en Iran à hauteur de 50%, ce qui n'est pas le cas en France. Bon, c'est peut-être aussi pour une question de binarité des genres et des sexualités, donc bon, on va conserver ça à tout prix, coûte que coûte, l'homme, la femme, le pôle masculin et féminin au sein de la société, et après si certains veulent passer de l'un à l'autre ou certaines veulent passer de l'un à l'autre, pourquoi pas, ça peut même être accompagné, disait Khomeini, par l'État, ça l'est encore aujourd'hui, mais voilà, il faut voir que c'est cette binarité des genres, cette opposition finalement, complémentarité peut-être, mais en tout cas une forme d'opposition en tout cas au niveau politique entre hommes et femmes qui doit être conservée selon cette représentation de la théologie islamique qui encore une fois est assez récente, enfin 30-40 ans. Donc si ces théologiennes d'un nouveau genre, si je puis dire, travaillent le Coran, la tradition du prophète et le droit musulman, elles et ils s'appuient en dernier instant sur l'exégèse critique qu'ils et elles font des textes coraniques en premier lieu. Donc la tradition c'est prophétique, les hadiths, c'est quelque chose qui vient en complément, mais ces féministes, ces théologiens gay-friendly s'intéressent particulièrement à l'exégèse du Coran, à ce qu'on peut dire, par exemple, des versets qui concernent Sodome et Gomorre. Il y a plus de 70 versets dans le Coran qui parlent de rapports sexuels entre hommes, mais qui n'appellent pas ça l'homosexualité, pour cause. C'est un terme, homosexualité, je vous apprends rien, qui a été inventé au 19e siècle par des médecins, des psychiatres occidentaux. Voilà, donc ça n'est pas cité dans le Coran, mais qu'est-ce qu'on peut dire des relations sexuelles entre personnes de même sexe dans le Coran? C'est quelque chose qui est posé. Vous avez d'autres intellectuels comme Amina Wadoud ou la femme imam californienne qui est aussi théologienne, pardon. Et puis Asma Lamrabet, la marocaine, qui dirige un institut de recherche au Maroc, qui travaille aussi en Espagne en tant que chercheuse, qui a grandi en Amérique du Sud pour des raisons politiques liées à l'histoire de son père et de l'ancien... Enfin, du roi du Maroc précédent, enfin, voilà, donc des perspectives intersectionnelles et transgéographiques que ces féministes mettent en avant pour redéfinir le rôle de la femme en islam. Si rôle de la femme il y a, qui réinterprète des versets coraniques qui disent, par exemple, Fadribuhunna, donc le Coran, selon une certaine interprétation, dit que si la femme n'obéit pas à l'homme, on va pouvoir, en tant qu'homme, en tant que mari, la frapper. Alors, en dernier recours, alors, les plus progressistes parmi les dogmatiques patriarco-traditionalistes, pour vous donner des étiquettes, un peu point de repère, vont vous dire, ah oui, non, mais c'est un dernier recours. Donc, vous savez, c'est très humain, hein, parce qu'on la frappe pas tout de suite. Et donc, certaines vous disent, voilà, il y a une gradation dans la réappropriation de ces versets. Certaines vont vous dire, non, mais dans là-bas, étymologiquement, c'est pas frapper, c'est exclure. Dans les appartements, et d'ailleurs, le mot appartement, fil madraja, est aussi, évoqué dans ce verset. Donc il ne s'agit pas ici de violence, mais d'ostracisation ou bien de séparation pour un temps de réflexion pour chacun des époux, enfin ce genre de choses. Bon, moi je trouve quand même que c'est assez loin du texte. C'est une forme de construction qui est féministe certes, mais peut-être un peu éloignée. Là on lit un peu trop dans les blancs. mais d'autres comme Amina Wadoud
ont...
Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais d'autres comme Amina Wadoud prennent plus et vous disent dans un premier ouvrage, Amina Wadoud voilà, a ce genre de reconstruction du texte ad hoc, a posteriori, et ensuite dans son dernier ouvrage, Gender Jihad, le jihad, donc la guerre sainte pour la liberté des sexualités des genres, elle vous dit non, mais il faut rejeter ce genre de versets du Coran parce qu'ils ne sont plus adaptés de toutes les façons aux sociétés laïques, postmodernes et pas forcément patriarcales, hein, ça dépend du point de vue où on se place, dans lesquelles nous vivons tous, surtout en Occident. Donc elle vous dit, moi, ce texte-là, je ne vais pas réécrire le Coran, mais je choisis quel verset je vais utiliser au quotidien et sur la base duquel ou desquels ces versets, je vais construire une représentation du religieux ici et maintenant. Donc voilà, toute cette question de la production de la norme éthico-religieuse, donc de faire, Amina Wadoud appelle ça le paradigme du tawhid, donc l'unicité de Dieu, d'accord, mais sans être idolâtre, donc l'unicité de Dieu en miroir de l'unicité des êtres humains, qui sont, selon le Coran, des khalifs, donc des successeurs du divin sur terre, voilà, cette loi n'est pas au ciel, cette loi est parmi vous, donc c'est aux êtres humains, selon une certaine interprétation du Coran, très progressiste, là encore, qui n'est pas forcément une reconstruction. Je pense que là, vraiment, c'est il est assez facile d'y voir une réappropriation assez radicale à la source de l'esprit qui a été, comment dire, dont on peut penser qu'il a été insufflé dans la tradition arabo-islamique par le prophète des musulmans il y a 1400 ans. Donc, voilà, ce paradigme du tawhid, de l'unicité, et donc elle vous dit, Amina Wadoud, dans certains de ses écrits, de ses recherches, si il y a une unicité, il n'y a pas de maître, entre, il n'y a pas d'intermédiaire, voilà, le Coran, enfin l'islam qui n'a pas de clergé, qui n'a pas, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est une représentation assez largement accepté, puis partagé de ce que l'islam propose en termes de relation au divin. Alors pourquoi moi, en tant que femme, je dois aller voir un imam ou un homme, mon mari ou autre chose, un autre homme, pour finalement intercéder entre moi et le divin. Donc voilà ce paradigme du tawhid, tawhidic paradigm, qu'elle met en œuvre. Elle l'utilise pour vous dire, avec d'autres théologiennes et théologiens féministes et gay-friendly, pour vous dire, ben, l'islam, c'est nous. Et ça, d'un point de vue sociologique, là, c'est très intéressant, c'est très puissant dans l'étude scientifique et objective qu'on tente depuis que ces études de genre sont appliquées à l'islam depuis une vingtaine d'années, peut-être 30 ans avec Fatima Mernissi, une des premières dans les années 80-90, avec son fameux livre Le prophète et les femmes, donc qui essaye à rebours, donc c'est pas vraiment d'un point de vue historiographique, c'est pas très très catholique, si je puis dire, c'est pas dans les clous, mais elle essaie de remonter aux sources de la tradition dite arabo-musulmane pour essayer d'excaver une forme de féminisme de la première heure. Et donc cette perspective de l'islam c'est nous est très puissante d'un point de vue scientifique, sociologique notamment, parce qu'on décrit le fait religieux, on décrit la sociologie, les dynamiques sociologiques, on n'est pas dans une espèce de fantasmagorie où on discute du sexe des anges et chacun a son point de vue et personne ne se retrouve finalement sur pas grand-chose. Alors, je sais que dans certaines formes de tradition, y compris islamique, mais aussi judaïque, c'est très, très, très protestante, si je ne m'abuse, c'est très important. Mais à un moment, d'un point de vue politique, parce que la plupart de ces acteurs, de ces actrices sont aussi engagés sur le terrain politique, il faut une base commune qu'ils et elles essayent d'établir par voilà, la description des dynamiques sociologiques, faire, comme je le disais tout à l'heure, de la théologie, de l'islam en l'occurrence, un facteur d'émancipation du plus grand nombre et pas un facteur d'oppression ou de justification de ce qu'il et elle considèrent comme étant du fascisme et je prends ce terme dans une acception épistémologique, donc c'est pas en référence au fascisme historique dans les années 40 en Europe, mais épistémologiquement, c'est le faisceau identitaire. Donc il faut tous être pareil. Les hommes, c'est comme ça, les femmes, c'est comme ça. Voilà, être français, c'est comme ça. Avoir des ancêtres gaulois, bon, ça résonne aussi avec un certain contexte politique contemporain à l'heure actuelle en France, en Europe. Et c'est aussi apprendre dans le sens où le fascisme, ça vient aussi, ça viendrait aussi de phallus. Donc c'est les hommes qui vont décider entre eux de comment les hommes doivent se comporter. Donc un homme doit être masculin, doit avoir des désirs envers une femme. Bon voilà, cette espèce de concordance, de correspondance entre genre, sexualité et identité, corporalité même. Donc après, il me reste une dizaine de minutes, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Un peu plus? D'accord. Donc, qu'en est-il de cette réappropriation de la théologie de la libération, théologie queer, après les printemps, ce qu'on a appelé les printemps arabes? Je peux citer par exemple la malaisienne Zeina Anwar, donc là une perspective presque anthropologique, sociologique, mais anthropologique que j'aimerais vous communiquer. Zeina Anwar, fondatrice d'un groupe pionnier du féminisme islamique qui s'appelle Sisters in Islam en 1988, donc vous voyez que les années 80-90, il faudra attendre encore 10 ans de plus pour avoir des associations dites LGBT, queer, alternative en termes de genre et de sexualité. Donc les féministes ont été avant-gardistes sur ces questions-là. On peut le comprendre aussi parce qu'il y a beaucoup plus de tabous sur la question de la sexualité dans le monde et dans les communautés de la diaspora dite arabo-musulmane, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, on peut y réfléchir ensemble. Donc un positionnement qui va ensuite, depuis la Malaisie et l'Indonésie, premier pays musulman au monde, même s'ils ne sont pas arabes, on ne le rappelle pas assez. Donc ces représentations-là vont se revendications, là on est dans le domaine politique maintenant, se diffusent dans le contexte de transition post-printemps arabe par le biais de débats sur la manière dont pourraient être utilisées les ressources du féminisme islamique. Depuis les années 2000, le féminisme islamique, tout comme le mouvement des LGBT musulmans, là il faut attendre donc un peu plus de 10 ans, sont entrés dans une seconde phase. On peut vraiment parler, selon moi, d'un mouvement pour deux raisons que je retiens. Je ne suis pas spécialiste de la sociologie des organisations, mais de ce point de vue-là, ça me paraît en tout cas assez clair. Le fait qu'il y ait une constance dans cette visibilité politique, sociologique, intellectuelle, et un caractère transgéographique. Donc ce n'est pas une petite association qui va émerger et puis ensuite va disparaître. On a vu ça dans les années 80-90, y compris en France, plusieurs associations LGBT dites musulmanes ou arabo-musulmanes ou arabes, enfin les LGBT arabes, il y a eu des bouquins, cet arabe qui m'excite, enfin c'était assez limité mais très 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 intéressant en fait, parce que c'est un titre assez provocateur, mais c'est un ouvrage qui date des années 90-2000 si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, et qui est vraiment intéressant de ce point de vue là, du point de vue de la déconstruction du rapport à la diversité des origines ethniques et confessionnelles à l'époque. Donc c'est une photographie assez intéressante de cette problématique. Donc elles sont rentrées, ces théologies, dans une seconde phase, avec d'un côté cette herméneutique qui est devenue plus radicale, donc qui assume plus le fait d'être coraniste, comme on dit, donc de mettre de côté les hadiths, voire carrément de les rejeter en disant mais ça c'est du qil oqal, comme on dit, donc c'est du téléphone arabe, c'est la samaritaine, voilà, il y a de tout, donc c'est intéressant, voilà, pourquoi pas, on peut y réfléchir, mais c'est comme les mille et une nuits, on va pas fonder une représentation du divin, et donc en miroir, une représentation de ce que nous sommes, sur des traditions qui datent d'il y a 1400 ans et dont on ne sait même pas si elles sont, si elles ont jamais été prononcées par le prophète des musulmans. pour une compréhension voilà, plus contemporaine de la justice, de l'égalité et de la laïcité, là aussi au sens épistémologique premier, donc le pouvoir au peuple, comme dirait les théologies de la libération chrétienne, Gutiérrez dans les années 50 en Amérique du Sud, mais aujourd'hui ces théologiennes islamiques avec 50 ans de décalage, pour ne pas dire de retard, se réapproprient aussi. Et puis d'un autre côté, cette recontextualisation des textes qui permet de discuter plus ouvertement la norme en matière de diversité des genres et des comportements sexuels. Parce que voilà, de dire ah ben c'est pas l'homosexualité qui est condamnée, il faut punir le péché mais pas le pécheur, on aime nos frères et sœurs, mais l'homosexualité c'est une abomination, point à la ligne. C'est quelque chose que ces théologiennes, ces théologiens féministes et gay-friendly n'ont pas abordé. Fatima Mernissi, par exemple, elle parle des femmes, le prophète et les femmes, elle parle pas du tout de lesbianisme. Et donc on peut lui dire, ah mais c'est un souci, parce que ça fait aussi partie de les femmes, où on peut se dire que c'est une stratégie un peu politique à l'époque, très très pragmatique, pas forcément cynique, hein, de commencer par déconstruire certains préjugés avant de s'attaquer, et elle l'a fait d'ailleurs, elle a parlé de la question de la lesbophobie, de l'homophobie dans certaines publications, notamment dans un interview que je cite dans l'ouvrage qui paraît aujourd'hui Islam en devenir, mais et que je peux vous communiquer. Mais voilà, c'est un interview, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'elle a porté, et puis ça date des années 80-90, donc encore une fois, on peut le comprendre ou pas. Donc c'est une première en Islam, en tout cas depuis la colonisation européenne au XIXe siècle, qui a eu pour effet, entre autres, de renforcer les représentations identitaires arabo-musulmanes guerrières, virilistes, certains diront, de manière un peu plus engagée, misogynes, homophobes et transphobes. Donc je ne suis pas un fan indécrottable de la question des études de genre postcoloniales, mais en même temps, si on n'en parle pas, c'est quand même une espèce de bombe à fragmentation depuis 100 ans qui n'en finit pas d'avoir des ricochets sur ce qui se passe aujourd'hui encore dans le monde arabo-musulman, avec des conséquences directes sur les représentations identitaires des individus qui composent les communautés de la diaspora dite arabo-musulmane en France et ailleurs. Donc c'est pas parce que je suis un fanadingue de ce genre de recherche postcoloniale, mais il faut en parler. Vous avez d'autres auteurs comme Joseph Massad dans Desiring Arabs, qui est paru en 2007, si je ne me trompe pas, qui lui en fait la pierre angulaire dans son ouvrage. Donc l'alpha et l'oméga, tout ce qui se passe en termes de genre et de sexualité et de politique, de dynamique politique, sociétale dans le monde arabo-musulman, c'est dû à la colonisation. Et c'est la faute de la colonisation. Donc il n'y a pas seulement une relation, une corrélation orientée, mais c'est aussi un jugement de valeur sur ce qui s'est passé il y a 100 ou 150 ans dans certains pays dits arabo-musulmans, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et donc tout découlerait de cela. Je pense que il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce genre de thèse, notamment le lien entre islamisme et nationalisme arabe en réaction à la colonisation et au nationalisme européen, les États-nations et toute cette partie des recherches historiographiques sur le sujet. Ça, c'est très, très, très intéressant. C'est vraiment documenté avec des textes en arabe, en anglais, en français aussi. C'est très, très riche. Mais de là à faire de ces recherches-là, de cette perspective, l'alpha et l'oméga, des recherches de genre appliquées à l'islam contemporain, je trouve que c'est quand même assez limité et politiquement, c'est quand même très orienté. Donc cette révolution que certains appellent Amina Wadoud, Mohsen Hendrix, un imam homosexuel sud-africain, Jihad for Love, donc c'était aussi le titre éponyme d'un documentaire diffusé en 2007, réalisé par un Canadien d'origine pakistanaise, Parvez Sharma, où voilà, dans une perspective aussi assez descriptive, narrative, anthropologique, le réalisateur va dans différents pays, il vient aussi en France, il interviewe des réfugiés égyptiens ou autres, marocains, notamment l'auteur assez connu qui s'appelle Abdellah Taïa, et donc Mohsen Hendrix aussi, le sud-africain, et d'autres voilà, acteurs de cette incarnation, j'aimerais dire, incarnation de ces recherches, de ces réflexions, en fait, des gens qui vous racontent comment ils ont, notamment Mohsen Hendrix, imam aujourd'hui, qui l'a été dès le début de sa carrière, dès sa jeunesse, et qui a quitté l'islam avec une parenthèse de plusieurs années. Lorsqu'il a découvert qu'il était homosexuel, il a dû repenser sa relation à l'islam, à l'exégèse coranique, à la tradition prophétique, En excavant certaines traditions, là pour le coup. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les traditions, ils s'en servent quand ça fait sens, et quand ça fait pas sens, on pourrait dire, moi je le dis pas personnellement, mais certains le disent, donc je vais en faire écho aujourd'hui, ça c'est la moindre des choses, on pourrait dire, mais ils prennent que ce qui les arrange. Et donc quand ça fait sens pour justifier des théologies queer et gay-friendly, ah ben on accepte la tradition, et puis sinon on va trouver que dans l'isnad, donc la chaîne de rapporteurs depuis le prophète des musulmans, c'est comme ça que ça se passe dans la théologie islamique des hadiths, et jusqu'au premier livre qui a été écrit et qui rapporte le fait que le prophète 100 ou 150 ans, hein, parfois 2 ou 300 ans avant, aurait dit, parce que voilà, les premiers livres de théologie islamique qui font état de cette tradition islamique, donc les hadiths, ce que le prophète a dit ou a fait, ça a été couché sur le papier 150 ou 200 ans après la mort du prophète. Le Coran est le premier livre en arabe qui a été écrit en tant que, voilà, en tant que livre relié tel qu'on le connaît aujourd'hui, et dont la version actuelle date de 30 ans après la mort du prophète. Donc même le Coran a une histoire de ce point de vue-là. Donc il se réapproprie ces traditions, dont elle pense qu'elles sont tout à fait inclusives, comme je vous le disais en début de présentation, au sens où le prophète aurait accueilli des muhannathoun, mutadakkirat, donc des hommes efféminés, des femmes masculines, avec des noms précis, des dates, des événements de leur histoire personnelle qui sont rapportés dans les traditions prophétiques. Et donc on essaye dans ces études de faire émerger, c'est ça qui est très intéressant, une représentation de la façon dont les premiers musulmans, le prophète lui-même, ses femmes, etc., ses compagnons, avaient une attitude plus ou moins homophobe ou homophile, pour aller vite, envers ces gens qui incarnaient des genres ou des sexualités alternatives qu'on ne pourrait pas qualifier d'homosexuels ou de transsexuels ou de transgenres parce que ça serait anachronique, mais vous voyez de quoi je parle. Des gens qui sont, par exemple, Mohannathoun, qui sont décrits dans l'article d'Evret Rawson, qui fait référence en la matière, Effeminates of Early Medina, que vous pouvez trouver en PDF sur Internet, qui sont décrits dans la tradition, selon cet article, qui fait une étude une revue de questions assez sommaire, non pas systématique, mais assez systémique, de la façon dont on se représentait vraisemblablement la question de ces efféminés, des identités efféminées à l'époque, donc des gens qui étaient efféminés, qui portaient des habits de femmes, donc finalement des transidentitaires, voire des travestis, des transsexuels. C'est assez flou, mais voilà, c'est... C'est un anthropologue allemand qui a écrit un livre, mon allemand est inexistant, il n'est même pas mauvais, mais sur la culture de l'ambiguïté, quand il parle de la culture dite arabo-islamique. Et donc on est là-dedans, on est dans le fait qu'on ne pose pas forcément de catégories identitaires, même si elles ont toujours existé. Mohannet, Mutadakkira, bon ça c'est les terminologies les plus... politiquement correct, mais vous avez aussi des termes beaucoup plus crus que je ne vais pas citer, que je cite dans ma publication qui sort aujourd'hui. Donc voilà, ces catégories de repli, comme les qualifient des historiennes comme Jocelyn Dahlia, qui a travaillé sur le harem et les représentations de la sexualité, de l'homoérotisme entre femmes à l'époque médiévale. Catégories de repli ont existé tout au long de l'histoire du monde arabo-musulman, même avant l'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui, avant le prophète des musulmans. Les Mille et une nuits, c'est un livre qui regorge, ou en tout cas qui regorgeait de références à la sexualité entre femmes, entre hommes, Et ce livre a été censuré, en partie, expurgé de toutes ces références homéorotiques ou un peu, en rapport avec des genres et des sexualités alternatives à partir du début du XXe siècle. 1925, Khaled Arwayheb, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'amour des garçons, Before Homosexuality ». Le titre en anglais est beaucoup plus éloquent. « Before Homosexuality » est un livre qui est vraiment très très riche et qui décrit toutes les représentations alternatives au sens non hétéronormatives, dans le monde arabo-musulman tout au long de ces 1400 ans d'histoire jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à la colonisation. Et ensuite ça s'arrête, il y a une césure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment la colonisation qui explique tout? Et dans ce cas-là, quelles sont les dynamiques qui sont en train d'émerger depuis 100 ans? Très intéressant, bouquin vraiment de référence pour ceux et celles qui s'intéressent à cette question-là. Et donc il décrit que il y avait des catégories identitaires qui ont toujours été qui ont évolué, qui ont une histoire aussi, y compris dans le monde dit arabo-musulman, et qui ont été influencées par la colonisation, au moins en partie, mais aussi tout simplement par la culture et l'avancée en termes de science, d'éducation européenne. Les premiers, ils citent le fait que les premiers hôpitaux moderne, alors que c'est les Arabes qui auraient inventé ce concept d'hôpital, d'université, etc., très décrié par Michel Foucault. Mais en tout cas, à une époque, ça faisait sens, à l'époque médiévale. Ils se retrouvent dans un tel retard, alors que certains expliquent par le refus de l'utilisation de l'imprimerie, d'autres par la découverte des Amériques. En tout cas, il y a une perte de vitesse du monde dit arabo-musulman et surtout de l'Empire ottoman à partir du 15e, 16e, 17e siècle. Et donc, on commence à construire des hôpitaux d'universités modernes, dites modernes, avec forcément des médecins et des professeurs qui viennent. Le premier à Istanbul et l'autre à Téhéran au 19e siècle, ces hôpitaux, ces universités modernes, avec des médecins et des professeurs qui viennent dans leur bagage avec des livres très modernes, très performatifs en termes identitaires, politiques, culturels, et qui vont pas simplement enseigner la médecine, mais aussi le fait que l'homosexualité, un terme qu'on venait d'inventer à l'époque, c'est une perversion. Et donc voilà, on raccroche un petit peu les wagons des deux côtés de la Méditerranée, entre l'évolution des dynamiques sociétales et de représentations identitaires ici et là-bas. Donc je pense que je peux conclure là-dessus, en espérant avoir été assez clair.